L'invité de cet épisode du Quatrième Mur est un cinéaste qui a réalisé un film nommé « Je me fais rare ». Heureusement, il a accepté de faire mentir cette affirmation pour être avec nous aujourd'hui. Dante de Sarthe, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu as une riche carrière. Tu as réalisé 4 films qui sont sortis au cinéma, 2, ce qu'on pourrait appeler des unitaires qui ont été diffusés à plusieurs reprises, avec lesquels tu as gagné plusieurs prix, également réalisé plusieurs courts-métrages. Prendre les choses de façon un petit peu chronologique, tu as réalisé d'abord plusieurs courts-métrages et ton premier long de cinéma, ça s'appelait Fast. C'était un film dont le premier rôle était tenu par le comédien Frédéric Gellard. Il y avait aussi le regretté Jean-François Stévenin en second rôle et beaucoup de jeunes talents, de jeunes premiers qui étaient promis alors un brillant avenir, notamment la fameuse Karine Viard qui joue, il me semble, le rôle de la fille qui a les cheveux jaunes comme des frites. Donc, tout d'abord, comment s'est déroulée cette première expérience du long métrage ?
C'était une montagne très très haute à gravir et j'en avais aucune idée à l'époque. Et peut-être que si j'avais su à quel point c'était haut, j'y serais pas allé. Parce que j'avais fait 3 courts-métrages, j'avais appris mon métier comme ça entre l'âge de 20 ans et 25 ans. Ouais. Et je faisais un peu tout. Moi, j'aimais beaucoup le bricolage du cinéma. Donc, je produisais les films, c'est-à-dire qu'en fait, je cherchais l'argent. Okay. Je le gérais, je dirigeais les acteurs, je constituais les équipes. C'était mon école, en fait. J'ai appris sur le tas.
D'accord.
J'ai commencé très jeune. Et après avoir été 2 ans assistant entre 18 et 20 ans, j'ai commencé à 20 ans à faire mon premier cours. Et donc, en trois ans, j'ai fait des courts-métrages et j'estime que j'ai vraiment appris beaucoup. Sauf que j'avais aucune idée que la marche à gravir quand on fait du long, c'était autre chose en termes d'énergie. Voilà.
C'est pas parce que tu as fait, on va dire, 4 courts-métrages de 20 minutes que tu les mets bout à bout et que ça fait un long métrage en termes de logistique et de préparation. Ouais. C'était un autre.
En termes aussi d'enjeux, les enjeux économiques n'ont rien à voir. Dans un monde idéal, quand on fait un film, on a l'impression que on est porté par une équipe, etc. Ouais. Dans la réalité, c'est
l'image
très différent.
D'Épinal qu'on a un petit peu.
Ouais, c'est très différent. En fait, il faut se battre avec les gens qui nous aident et aussi beaucoup contre d'autres facteurs, des impondérables, des problèmes de budget, des choses qui devraient arriver qui n'arrivent pas. Un jour où il doit faire très beau, il neige.
Bien sûr.
Tout ça, c'est il y a de tels enjeux économiques qu'on peut pas dire on va attendre la lumière et attendre qu'elle soit belle pour tourner.
Voilà. Et du coup, tu parlais des enjeux notamment budgétaires et économique, est-ce que c'est justement, même si tu avais, tu t'étais fait un petit nom, on va dire, avec plusieurs courts-métrages, est-ce que pour réunir les financements de ton premier long, tu as vraiment galéré, parce que c'était des financements privés, des subventions, ça s'est déroulé comment ?
Alors oui, j'ai beaucoup galéré. Alors en même temps, en France, on a vraiment beaucoup de chance. Hein. On a un système où le cinéma et notamment les premiers films sont largement subventionnés par le CNC, le ministère de la Culture, etc.
Rappeler, ouais.
Donc c'est vrai qu'on râle beaucoup, on est un peuple de râleurs, mais en termes de cinéma et cinéma d'auteur, on est très très chanceux et on l'était encore plus à mon époque, quand j'ai commencé en tout cas.
Fast, excuse-moi, je t'interromps juste, il est sorti en 95.
Alors j'ai commencé à l'écrire en 90.
D'accord.
Je l'ai tourné en fin 93. Montage 94 et il est sorti en 95. Je passe les détails. Il aurait pu sortir plus tôt, mais il se trouve qu'un de mes producteurs a fait faillite et que je me suis retrouvé à devoir sortir le film alors que le producteur était plus trop là pour m'aider. Donc ça a mis un peu plus de temps.
D'accord. Voilà. Donc c'était pour Fast, tout à fait. Et donc une fois qu'il est sorti, il a été plutôt bien reçu, il a eu un succès d'estime, il me semble qu'il a gagné un ou deux prix également.
Oui, heureusement le film, c'était 5 ans, ça me semblait une éternité parce que j'ai commencé à l'écrire, j'avais 25 ans, il est sorti, j'en avais 30.
Oui.
Donc à cet âge-là, ça fait beaucoup, hein.
Ouais.
Et oui, heureusement le film a été très bien reçu, il a eu des prix, il a pas eu un gros distributeur. Donc évidemment, il n'a pas fait d'énormes entrées, mais c'est un film qui est resté un peu dans l'inconscient collectif à l'époque et qui est beaucoup repassé ensuite à la télévision, sur M6, sur Arte, sur Canal. Et puis donc du coup, après, il est repassé ensuite sur les... Et là, je viens de finir de le restaurer pour pouvoir de nouveau le présenter au public sur les plateformes, etc.
Super. Oui, tu parlais de l'inconscient collectif, puisque pour résumer un petit peu, c'est l'histoire d'un garçon qui est assez un petit peu naïf, on pourrait le dire comme ça, qui a vécu toute sa vie dans la campagne...
En Ardèche.
Voilà, je ne savais pas où c'était tourné exactement, avec son grand-père qui a été un petit peu préservé du vrai monde et qui, pour des des raisons, monte à Paris, comme on dit, et va travailler dans une chaîne de fast-food qui est une parodie à peine voilée de McDonald's. Et finalement, tu penses qu'au moment où il est sorti, de ce que ça disait, notamment de cette génération, mais qui était finalement ta génération, et la génération des acteurs montrés dans le film, est-ce qu'en termes de timing, ça s'inscrivait bien dans l'air du temps, dans ce que ça disait, ça a joué aussi sur les échos que ça a eu ?
Alors, je ne sais pas, parce que, en fait, moi, j'aimais bien l'idée que ce soit un vieux film moderne. C'est-à-dire que je l'ai fait en pensant à des films qui étaient plutôt des films anciens. J'ai pensé à Jacques Tati.
Ouais. Alors moi, je ne sais pas si c'est à ça que tu penses aussi, mais en voyant le physique et le jeu assez physique de Frédéric Jallard, je pense à quelqu'un comme Buster Keaton.
Complètement, ça faisait partie de mes références. Ouais. Et aussi à un film que j'avais adoré de Hal Ashby, qui est un cinéaste américain des années 60-70, qui avait fait un film avec Peter Sellers qui s'appelait Bienvenue Mr. Chance. Oui, c'est un film que j'adore. Ouais. Ça s'appelle Being There aux États-Unis, en anglais. Et c'était un personnage comme ça de naïf, complètement décalé. Si ce n'est que dans Being There, c'est l'histoire d'un jardinier illettré qui devient président des États-Unis, pratiquement, par une suite de malentendus. Moi, c'est simplement un simple d'esprit qui débarque à Paris.
Mais il monte déjà très haut dans la chaîne alimentaire, pour les dire comme ça.
Voilà, et qui monte les échelons pour devenir le patron d'un fast-food par une suite de malentendus. Donc c'est un schéma de comédie et c'est effectivement une sorte de parodie, pas une parodie, mais disons une parabole sur la société de l'époque, de juste avant le tout numérique, on va dire.
C'est ça. Et donc, une fois que Fast est sorti en 1995, comme tu disais, qu'il a eu ce petit succès d'estime, tu t'es mis. Donc, ton film suivant qui s'appelait Cours toujours, tu n'as pas mis 5 ans à le faire, tu as mis un petit peu plus rapidement, mais tu parlais des enjeux qu'il y a et notamment du financement. Est-ce que même après avoir eu ce petit succès d'estime et même ce petit succès en salle, est-ce que quand on décide de faire son deuxième long métrage, est-ce qu'on remet quasiment les compteurs à zéro ? C'est comme si on faisait un deuxième premier film ou tu as pu capitaliser sur ce succès malgré tout ?
Alors, j'aurais bien aimé être conscient des choses à cette époque.
Ouais.
Mais parce qu'en fait, il semblerait que le deuxième long métrage, c'est le plus dur à faire.
Okay.
Le deuxième et le troisième, semble-t-il. Parce que le premier, on a toute cette énergie, on est attendu, il y a la curiosité, il faut donner la chance aux jeunes. Et déjà, quand on se plante vraiment sur le premier, c'est très très dur, pratiquement impossible de faire un deuxième.
Ouais.
Donc moi, j'ai fait un deuxième, j'aurais pu le faire plus vite. Mais encore une fois, je voulais tout faire. Donc je voulais produire. Je voulais être indépendant, et c'était un peu mon credo. Et du coup, j'ai mis 4 ans quand même.
Ouais.
J'aurais pu le faire en 2, j'ai mis 4. Et surtout, je ne savais pas que j'avais un crédit. Donc, j'ai voulu vraiment peaufiner le scénario. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le deuxième, un peu contre le premier. C'est-à-dire que tout ce qui ne me satisfaisait pas dans le premier, j'ai essayé de régler ça dans le deuxième.
De prendre le contre-pied.
Et puis... de faire autre chose. Et puis, j'avais envie d'expérimenter des choses nouvelles.
Ouais.
Et donc, j'ai capitalisé, mais un peu sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai été surpris au moment où j'ai commencé à chercher les sous. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis 3 ans à écrire le scénario, ce qui était vraiment long. J'étais pas content, je recommençais. Et quand j'ai commencé à chercher les sous, j'ai été très surpris que ça vienne très vite, que tout d'un coup, j'ai trouvé très vite un distributeur. Canal+ a dit oui tout de suite, Arte a dit oui tout de suite. Et je me suis dit, donc je ne m'étais pas planté avant.
Ouais, finalement, les gens se souvenaient de ton nom plus que ce que tu pensais.
Plus que ce que j'imaginais. Ouais. Et j'aurais bien aimé le savoir à l'époque que ça serait... Voilà.
D'ailleurs, et d'accord. Donc, c'est comme tu me le disais quand on préparait l'émission, c'est un film qui était difficilement visible et trouvable ces derniers temps. Et je crois que tu es en train également de restaurer la copie et tu pourras le projeter à nouveau au public.
Oui, complètement. Ensuite. C'est-à-dire que voilà, maintenant les formats ont changé. Mes deux premiers, Fast et Cours toujours, étaient tournés en 35. Mm-hmm. Ils existaient sous forme de bobine 35 mm, dont j'étais très content d'ailleurs. Mais maintenant, effectivement, il faut faire un DCP en 2K ou 4K.
D'accord.
Pour pouvoir ensuite même repasser sur les télés, sur les plateformes.
Oui, que ce soit compatible en termes de format.
Donc je suis en train de faire ça et j'en profite pour essayer d'améliorer un peu l'étalonnage.
D'accord.
Ce qui est marrant d'ailleurs, à 20 ans d'écart.
Est-ce que tu vas faire le director's cut de Cours toujours 20 ou 25 ans plus tard, comme Coppola qui était revenu à Apocalypse Now? Il y est revenu plusieurs fois d'ailleurs. Tu te retiens de modifier ou de retirer certaines scènes ou...
Alors sans vouloir critiquer les autres cuts de Coppola, moi j'étais un grand grand fan d'Apocalypse Now, premier cut. Qui était d'ailleurs un director's cut en l'occurrence.
Ça a toujours été un director's cut.
Oui, Coppola, il avait le final cut à ce moment-là, il sortait du parrain et il avait carte blanche. Simplement, je pense que pour des raisons économiques, il vend des director's cut maintenant pour ressortir le film différemment et engranger des recettes.
Oui, oui.
Mais le premier était vraiment très, très
bien. Ouais. Et puis, au-delà de ça, en fait, je pense que quand il y a beaucoup de livres et même de films qui ont été faits sur le sujet du tournage d'Apocalypse Now, qui était absolument dantesque. Et parfois, je me demande même si c'est pas une raison un peu plus psychologique, dans le sens où c'est une blessure, y compris une blessure narcissique tellement grande qu'il est obligé d'y revenir, peut-être pour se comprendre lui-même.
Ouais. En tout cas, c'est un vrai chef-d'œuvre pour moi.
Oui.
Ça a été une révélation. Moi, j'ai vu à sa sortie, j'étais tout jeune. Le film est sorti, je crois, en 76 ou 75, je ne sais plus. Et je me rappelle très bien, au début, quand ils font du ski nautique au Vietnam sur la rivière, et que tout d'un coup, il y a « I can get no satisfaction
». Ouais.
Et là, je me suis surpris à pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Une sorte de choc esthétique comme ça. Ils font la guerre et ils sont en train de faire du ski nautique. Mais qu'est-ce que ça raconte? Mais c'est incroyable. Ça racontait tellement de choses sur cette guerre et sur la naïveté des Américains.
Bien sûr, ouais.
Voilà, enfin bref.
Et d'ailleurs, c'est une très bonne... c'est très intéressant ce que tu dis. On en parlait un petit peu avant l'émission. Ton papa, qui s'appelle Gérard Desartes, était déjà dans le milieu du cinéma et beaucoup au théâtre aussi.
Surtout théâtre.
Théâtre et un petit peu au cinéma. Est-ce que, de façon consciente ou inconsciente, justement, toi, tu as toujours su que tu voulais faire du cinéma, ou tu disais bricoler sans parler d'être cinéaste ou acteur comme tu l'es devenu ensuite par la force des choses? Tu as toujours su que tu voulais justement bricoler dans ce secteur-là plutôt qu'un autre?
Pas toujours. Je sais que j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête, mais c'est un peu grâce à mon père d'ailleurs. Mais pas pour l'avoir vu au théâtre, mais il m'avait emmené voir quand j'avais 5 ans, 2001. Quand il est sorti.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc effectivement, voir 2001 à 5 ans, je pense, tu parlais d'Apocalypse Now. Ouais, 2001, c'est pas...
Mais j'avais rien compris, mais j'étais tellement fasciné par cette première demi-heure où il n'y a pas un mot échangé.
Mais je pense que plein de gens ne l'ont pas compris.
Mais
ont été tétanisés.
Mais complètement. Alors, je l'ai revu 30 fois depuis, ouais. Hein, évidemment. Mais, et je pense que dans un coin de ma tête, je me suis dit, le moment où... Alors, pas à 5 ans, bien sûr, mais le moment où il y a cet homme préhistorique qui jette comme ça l'os dans le ciel, et qu'il y a une ellipse de plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, et que tout d'un coup, ça devient un vaisseau spatial avec le beau Danube bleu, etc. Ah, on peut faire ça avec du cinéma.
Ouais.
Et je pense qu'il n'y a que avec du cinéma qu'on peut faire ça.
Ah oui, c'est clair. Même par rapport à, je sais pas, des arts majeurs comme la peinture ou la littérature, effectivement, ça, c'est resté à juste titre l'ellipse du cinéma la plus célèbre de l'histoire.
Avec Merry Christmas, Mr. Kane dans Citizen Kane, où on le voit petit garçon, il y a Merry Christmas, Mr. Kane, et après il répond Merry Christmas, mais on est 25 ans plus tard. Et donc c'est une autre ellipse intéressante. Il y en a eu d'autres quand même. Mais celle-là, je sais qu'après, en ayant revu plusieurs fois ce film, 2001, je me suis dit, il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec du cinéma. Il y a des films, ça pourrait être du théâtre, ça pourrait être de la littérature, etc. Ça ne changerait pas grand-chose. Ce serait même parfois des très beaux films. Mais on se dit, le médium de ce film n'est pas forcément le cinéma.
C'est vrai.
Et avec certains cinéastes, je pense à, je sais pas, Andrei Tarkovsky, Stanley Kubrick, le cinéma... C'est du cinéma, c'est de l'art.
Et c'est ce que tu dis, ça ne peut être fait, ou en tout cas fait aussi bien avec aucun médium.
Même,
tu vois, tu parlais de Citizen Kane, Orson Welles, qui avait été un grand homme de théâtre, un grand homme de radio, et il a fait Citizen Kane, et même les films qu'il a fait par la suite, qui ont été mutilés pour certains, mais qui a quand même fait un paquet de grands films. C'est vrai que tu vois Citizen Kane, tu te dis avec les flashbacks, avec
modernité,
avec la narration, avec la façon d'utiliser le son, la diction qu'il avait. Effectivement, ça ne peut être que ça, quoi.
Ouais.
Ok. Donc finalement, dès 5 ans, de façon même inconsciente, tu savais que...
Ouais, c'était ça, ou astrophysicien après. Donc,
les études étaient peut-être moins longues que pour être astrophysicien.
Ouais, à un moment, quand j'ai vu que j'étais un peu limité en maths, je me suis dit, on va faire du cinéma. Bon, c'est pas forcément plus facile.
Donc, tu parlais de Cours toujours. Donc, ça, c'était ton deuxième film. Ensuite, ton film suivant, pour le coup, il s'est écoulé un peu plus de temps. C'est Je me fais rare, justement. J'en parlais au début. C'est le premier volet des aventures de Daniel Danit, qui est en fait ton double de fiction. C'est dans une démarche qu'il a entrepris, qui est assez proche de... moi, ça me rappelait un petit peu certains films qu'a fait Woody Allen, ou même Nanni Moretti à ses débuts.
Ah, c'est deux belles références.
C'est vrai que c'est pire. Oui, notamment, je parle de Nanni Moretti, c'est vrai que je ne fais plus des films comme ça, mais des films comme Journal Intime, justement, notamment, tu parlais on va parler du support, puisque la technique que tu as utilisée sont importants aussi. Et de Daniel Danit, ton double de fiction, tu dis, quand je parle sans réfléchir, il n'est jamais loin. C'est ça le rapport que tu entretiens avec lui.
Oui, en fait, c'est un peu mon clown, comme on dit, Daniel Danit. C'est-à-dire qu'en fait... En tant que cinéaste, je, j'oscille entre j'ai l'impression que je suis à l'intérieur de moi-même quelqu'un d'extrêmement prétentieux et sûr de moi. Et en même temps, j'ai une autre partie de moi-même très humble où j'essaie d'apprendre et j'essaie de toujours de bricoler, comme je dis, et de découvrir des nouvelles choses avec, j'espère, de l'humilité. Et ce conflit entre ces deux parties de moi-même a créé ce monstre qui s'appelle Daniel Dennett, qui est une sorte de cinéaste en galère, mais tellement prétentieux que tous les problèmes coulent sur lui. Et j'aimerais bien avoir la confiance de Daniel Dennett.
Oui, finalement, il lui arrive énormément de choses, mais il s'en rend pas compte. Et puis, il est aussi... il est, comment dire, en plus son credo c'est que le cinéma va mourir et que c'est à lui de le sauver.
Voilà.
Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que tu disais, même si c'était ton troisième film, tu as beaucoup expérimenté, en tout cas cherché de nouvelles choses, puisque c'est le premier film où tu apparais en tant qu'acteur, où tu te diriges toi-même. Donc avant c'était pas le cas, même si il y avait des acteurs dont on pouvait penser que des personnages pouvaient te ressembler, mais là c'était la première fois. Et également, tu disais que tes deux premiers films avaient été tournés en 35, et là c'est radicalement différent, puisque le premier, il me semble, Je me fais rare, a été tourné en DV,
ouais,
et le deuxième, qui s'appelle Je fais feu de tout bois, a été tourné
en HD,
d'accord. Ouais. Et donc ça, c'est pareil en termes d'utilisation de la technique, c'est un total contre-pied. Finalement, ce cheminement entre au moment Court toujours, qui était un petit peu y compris esthétiquement dans la continuité du premier, et Je me fais rare, qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais défricher, tu voulais
Je voyais
expérimenter
bien que,
toujours
bah, surtout je voulais expérimenter, puis je voyais que le monde changeait très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution qui s'appelle la révolution numérique, et je l'expérimentais déjà au montage. C'est-à-dire que Fast a été monté en 35 mm, comme j'avais monté mes courts-métrages en 35 mm.
C'est-à-dire avec des bobines qu'on découpait, qu'on collait.
Ouais. C'était très long, très besogneux.
Tu parlais de bricolage, ça c'était quasiment de la couture à l'époque.
C'était de la couture, d'ailleurs. Ouais. En France, les monteuses étaient d'anciennes couturières au départ.
D'accord.
C'est assez intéressant.
C'est pas étonnant.
Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un métier très féminin en France.
Ouais.
Parce que c'est dans la continuité de la couture.
D'accord.
Alors que par exemple dans les d'autres pays, que ce soit en Italie, dans les pays anglo-saxons, etc., c'est surtout des hommes qui étaient au montage, parce qu'ils n'avaient pas le même système de montage, et les tables de montage étaient différentes, elles étaient verticales, et donc ça ne faisait pas appel exactement aux mêmes habitudes.
Ça ressemblait moins à de la couture.
Ouais,
d'accord.
Historiquement, c'est intéressant ça.
Ouais.
Mais non, je voyais que ça changeait. J'avais monté en virtuel des pubs quand je faisais des pubs à ce moment-là, et alors c'était très, c'était du virtuel de mauvaise qualité. Qui buguait tout le temps, etc. Ouais. Mais je voyais bien qu'il y avait une révolution.
C'était les balbutiements de la technologie.
Complètement. Ouais. Et je me dis, il faut prendre ce train-là parce que ça va vraiment révolutionner le cinéma. Et comment on peut travailler comme ça? Et comme par ailleurs, moi, ma femme est écrivain, j'étais assez jaloux de sa façon de travailler. C'est-à-dire que c'est un écrivain, un peintre, un sculpteur, il est dans son atelier, il est seul face à son œuvre, on termine son livre et il est fini.
Ouais.
On termine son tableau
et il rend compte à personne.
Et il rend compte à personne. Et je me dis, tiens, si on pouvait faire comme ça avec le cinéma, ça serait génial. Je dis, ben, on peut le faire, mais avec très très peu de moyens, voire zéro moyen, et beaucoup de temps.
Ouais.
C'est ça qu'il faut. Et c'est ce que je me suis offert pour Je me fais rare.
D'accord.
C'est-à-dire,
Tu l'as tourné en. Parce que, ouais, on est finalement. Tu parles même dans la façon dont ça a été fait, et même ça se voit à l'écran, dans l'esthétique, on n'est pas très loin finalement de certains films du cinéma guérilla. Et ce que je lisais dans une interview à propos du film, ça a été tourné sur un temps assez long. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées que tu n'as pas gardées ensuite. Ça s'est passé comment? Puisqu'en plus, c'est beaucoup d'acteurs amateurs pour la plupart, il me semble.
Il y a un mélange d'amateurs complets et de professionnels, dont certains qui sont devenus des grands acteurs aussi. J'avais envie de m'entourer de gens très créatifs, et puis c'était beaucoup de l'impro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui s'est écrit tout en se tournant. Pour faire un peu l'historique du truc, je devais faire mon troisième long métrage avec des gros producteurs. Je dirai pas les noms là parce que je me suis fâché avec eux, donc j'ai pas envie de... Voilà. Je devais faire mon troisième film avec des gros producteurs et c'était parti. Et c'était un film fantastique avec un gros budget. Il allait rentrer en préparation et tout d'un coup le film s'est pas fait de mon fait. Parce que en rencontrant le distributeur, j'ai vu que le distributeur du film ne comprenait rien au film, et que le film allait se faire sur un malentendu, et mes producteurs, en l'occurrence, ont essayé de m'imposer une comédienne très connue, mais qui n'allait pas pour le rôle.
Okay.
Et à un moment, j'ai dit non, je peux pas.
Vous alliez pas faire le même film.
On va se séparer.
Ouais.
C'est pas grave. J'ai trouvé un autre producteur qui va reprendre le projet. Et un des deux producteurs, c'était un couple de producteurs, me dit on préfère que ton film se fasse pas plutôt qu'il se fasse sans nous. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur le scénario. Donc c'est une grosse claque, ça, quand on entend quelque chose pareil. C'est-à-dire que les droits leur étaient cédés, ils ne voulaient pas me les rendre. En gros, soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu ne fais pas ton film.
Okay.
Donc je me dis, qu'est-ce que je fais ? Eh bien non, je ne fais pas mon film, j'en ai rien à foutre, je ne fais pas mon film. Et j'étais tellement mal que j'étais dans une telle énergie de tournage, je me suis dit, je ne peux pas repartir 2 ans à écrire un scénario, c'est pas possible.
Tu voulais battre le fer quand il était chaud, quoi.
Et là, j'ai pris un petit carnet, j'ai inventé mon personnage de Daniel Dennett en une petite page, j'ai écrit 2 idées de scène et j'ai dit, je commence à tourner demain. Okay. Pas après-demain, pas dans un mois. Demain. Et donc, j'ai pris ma petite caméra avec laquelle je filmais mes enfants que j'avais acheté 6 mois plus tôt. Et j'ai commencé à faire des impros tout seul. Et petit à petit, le film s'est construit. J'ai appelé des copains qui étaient libres pour jouer. Et puis, c'était pour faire une expérience. C'était, du cinéma de survie, on va dire. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai commencé à monter tout seul. Je me suis dit, mais ça a de la gueule. Et puis, ça a un sens. Et
ça peut faire un vrai film.
Ça peut faire un film. Alors que j'ai continué. Je l'ai montré à 3-4 personnes. Je l'ai monté à mon agent, qui était mort de rire, qui m'a dit, mais c'est un film. Je lui ai dit, mais alors, qui va le sortir ? Et il a appelé un autre Don Quichotte du cinéma qui s'appelle Paolo Bronco, grâce à qui il y a eu énormément de grands films produits en France, y compris avec 2,50 francs, avec 2,70 €. Et heureusement que ce personnage a existé à une époque dans le cinéma français. Et il a fini par venir le voir chez moi sur mon ordinateur. Il était mort de rire. À la fin, il dit, je sors ce film.
Okay.
Et donc, il a sorti le film. Et c'est grâce à ça, mais alors ça s'est fait totalement à l'envers. C'est un film qui s'est fait à l'envers.
Oui, c'est ce que tu dis. Et finalement, il a été d'écrire un film en le tournant, comme tu dis, et de façon assez même décousue comme ça. On parlait de la liberté totale qu'un peintre ou un écrivain peut avoir. Là, c'est là que tu t'en rapproches le plus en termes de.
Et c'est pour ça que j'ai joué dedans. C'est pour ça que j'ai joué dedans aussi, parce que je
ça te faisait une contrainte en moins de ne pas avoir d'acteur.
Voilà. Et puis, du coup, j'ai inventé ma forme. Je faisais des cadres fixes. Il n'y avait pas de cadreur. Mon ingénieur du son, Dominique Lacour, un mec génial qui a fait tous mes films au son, m'a prêté du matériel que j'ai pu garder. Et je planquais les micros en limite de caméra. J'avais des micros HF pour pouvoir tourner sur le scooter.
Ouais.
Et donc, on avait une souplesse de tournage incroyable. Et le film s'est tourné en 2003, 2004, 2005.
Ouais.
Enfin, 2003, 2004, 2005 un tout petit peu. Remontage, mixage, etc. en 2005, sorti en 2006. Donc, encore une fois, ça s'est fait sur 4 ans. Mais de A à Z.
Ouais, voilà. Avec un processus, les échelons n'étaient pas les mêmes. Et à ce moment-là, est-ce que. En tout cas, quand tu as terminé le film, est-ce que dès ce moment-là, tu t'es dit, ah tiens, ce personnage-là, qui est un petit peu mon double de fiction, est-ce que tu avais déjà dans un coin de la tête d'y revenir plus tard, de continuer à en faire un deuxième, puis un troisième film, comme tu as fait ensuite ?
Alors, l'idée du deuxième est pareille tout de suite, mais en fait, ça a été tellement bien reçu, et ça, je m'y attendais vraiment pas. Hein. Le film a été tellement bien reçu par mes proches et par des gens que je connaissais pas du tout. Il y a même des gens qui m'arrêtaient dans le métro, qui me reconnaissaient, parce qu'ils avaient vu le film piraté, c'était le début du piratage sur Internet.
Ouais.
Et ils avaient vu le film piraté, alors ils me disent « Daniel Dennett ?» J'entends dans le métro, je me retourne, je me dis,
ça peut être que toi,
mais pour vous, comment, j'ai vu votre film, ah bon, mais quand, ça c'était 2 ans après la sortie du film, je me dis, mais quand, point AVI, donc c'était le truc,
c'est le format de l'époque,
c'était le format de l'époque, et donc je comprends qu'il l'a piraté sur internet, donc je lui disais, bon, c'est pas bien,
les ayants droit quand même,
c'est pas bien, parce que déjà, je l'ai fait pour zéro, j'aimerais bien toucher un peu d'argent, mais en même temps, il était content, et il m'en parlait, bon, il y avait des gens comme ça, et donc, les retours ont fait que je me suis dit, il faut en faire autre chose de ce personnage.
Et c'est ça que tu as découvert aussi, peut-être, c'est que finalement, tant que t'es réalisateur, les gens peuvent voir tes films sans connaître ta tête et sans t'arrêter dans le métro, et là, à partir du moment où tu étais acteur,
les gens,
les gens savent à quoi tu ressembles.
Alors bon, il y a peu de gens qui ont vu ces films-là, mais
t'étais pas devenu Brad Pitt du jour au lendemain à pas pouvoir te promener dans le métro.
Et puis c'était pas le but.
C'est différent aussi. D'ailleurs, toi qui justement est-ce que ça change quelque chose quand tu dois te diriger toi-même par rapport à quand tu diriges des acteurs, est-ce que tu as appris de ce côté-là ? Est-ce que c'est plus facile, plus dur ?
C'est plus facile quand je joue Daniel Dennett, parce que je le connais bien. C'est un monstre, un clown monstrueux de moi-même. Donc, il est un peu quelque part en moi. Donc, ce n'est pas un très gros rôle de composition, même si j'espère être beaucoup moins prétentieux que lui. Mais en même temps, ça m'a beaucoup appris sur comment diriger les acteurs, pour le coup. Parce que... parce que quand on fait soi-même l'expérience, surtout que sans regard, sans autre regard que le sien propre, on est obligé de se poser des questions que doivent se poser des acteurs quand ils sont mal dirigés.
Ouais.
C'est-à-dire quand on leur dit rien, ce qui arrive souvent au cinéma, malheureusement. Et donc, j'ai fait cette expérience un peu limite. Et après, donc, évidemment, je tournais, je regardais ce que j'avais fait, je voyais ce que je pouvais améliorer, je retournais. Voilà, j'avais une grande liberté. Il y a même des scènes que j'ai tournées 3-4 fois. Il y a une scène que j'ai tournée, que j'ai montée. Je la trouvais pas mal, je me disais non mais quand même il y a un truc qui va pas et je la retournais intégralement 6 mois plus tard.
D'accord. Ouais.
Et parfois il y a une des scènes avec des producteurs puisque Daniel Danit rencontre souvent des producteurs à qui il essaye de soutirer des sous et il y a une scène avec un producteur que j'ai tourné, que j'ai monté et puis elle allait pas etc. Et un an plus tard j'ai tourné un contre-champ de cette scène, donc on a refait la scène avec le producteur uniquement pour que j'utilise un plan qui manquait.
Ok. Ouais,
et donc ça c'est génial,
il y a que dans cette configuration là
qu'on peut le faire. Ouais, on peut jamais le faire, même Woody Allen justement qui a toujours dans ses contrats une clause comme quoi il a le droit à 2 semaines de retake à la fin de ses films.
Okay.
C'est-à-dire que très souvent il écrit très vite ses scénarios, il commence à tourner et puis il voit qu'il y a des problèmes, il réécrit et il tourne des retakes, ce qu'il appelle des retakes, mais qui sont 2 semaines décalées. Et donc, c'est les contrats. Même lui ne retourne jamais un plan un an et demi plus tard.
Pour avoir le contre-champ.
Non.
Et donc, oui, le film est sorti en 2006. Et en 2012, effectivement, tu as sorti le deuxième volet des aventures de Daniel Danit. Donc, cette fois qui s'appelle
Je fais feu de tout bois,
merci, je cherchais. Et là, c'est pareil. Alors, il est toujours question plus ou moins de la mort du cinéma de façon un petit peu détournée. Et là, son objectif est à peine moins mégalo, puisqu'en fait, lui, il a une idée révolutionnaire, en tout cas selon lui. Pour sauver le cinéma, chaque cinéaste doit se trouver un frère, puisque étant donné qu'il y aura 2 fois moins de films, ce sera des films. Les films sont 2 fois mieux. Et donc, il se passe plein de trucs. En plus, il est à la recherche des frères Cohen, il prend le bateau pour aller là-bas, aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses. À côté de ça, il donne des cours. Enfin, c'est difficilement racontable. Et c'est aussi pour toi. C'est pour toi l'occasion de renouer avec le personnage. C'est aussi, on parlait des influences avant, des différentes influences que tu as pu avoir sur tes films. Et là, c'était aussi pour toi l'occasion justement de rendre hommage aux frères Cohen, qui sont le duo de frères probablement le plus connu du cinéma aujourd'hui. Et il y a même des scènes où tu recrées des scènes de Big Lebowski, où les étudiants le jouent, où c'est costumé.
Oui, j'ai voulu m'amuser avec ça. Moi, je suis un grand fan des frères Cohen. Et une fois, après mon deuxième long métrage... y a un ami à moi qui m'a dit ah ouais, il est bien ce film, mais alors il y a 2-3 trucs que t'as raté, ce qui était vrai, hein. J'estimais qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais raté, et je lui ai dit tu sais le problème c'est que j'ai pas de frère Cohen. Et à ce moment-là ce truc m'est resté. Je lui ai dit ah ouais, j'ai pas de frère Cohen, c'est con, il y a 2, on essaie mieux,
ouais,
on a
un regard,
voilà. Et puis quelques années plus tard, quand il s'agit de faire le deuxième volet de...
C'est pareil, t'as laissé le monstre en toi parler.
Et je me suis dit, ben voilà, c'est l'histoire de Daniel Danit qui veut devenir le troisième frère Cohen. Et toujours autour de l'idée du cinéma qui est en danger, etc. Et dans Je me fais rare, c'était le cinéma en train de mourir. Et là, c'est un peu l'histoire d'une renaissance. C'est-à-dire que c'est plutôt... Daniel Danit était dans une phase dépressive, on va dire, dans Je me fais rare. Et là, il est plutôt dans une phase maniaque. Ouais. Dans Je fais feu de tout bois, disons qu'il
mais
est
c'est
plutôt...
à peine plus rassurant parce qu'il est parfois dans
il est dans des gros délires, ouais, tout à fait. Et donc effectivement, il fallait que ce soit délirant et mégalomane, et donc à un moment il prend un bateau pour aller à la rencontre des frères Cohen en Amérique, et donc j'ai effectivement pris le bateau avec une équipe de 2-3 personnes sur le Queen Mary 2 pour payer son voyage. Daniel Danit danse avec les vieilles dames sur le bateau, etc. Donc il y a pas mal de choses où on s'est beaucoup beaucoup amusé à tourner. Et encore une fois, sans scénario, avec juste une petite trame écrite à l'avance, beaucoup d'improvisation et de la réécriture entre-temps et du retournage. Et ce coup-ci, Canal+ m'a suivi. C'est-à-dire qu'il y a eu un pas qui a été franchi entre le premier et le deuxième. Le premier a été complètement fait dans ma cuisine.
Ouais.
Et le deuxième, sur un projet sans scénario, Canal+, moi, je remercie beaucoup Franck Weber qui maintenant travaille chez Gaumont, qui tout d'un coup m'a dit j'adore Daniel Danit, j'adore vos films d'avant, allez, je vous donne un peu d'argent pour le faire, ce qui est quand même incroyable, c'est que Canal+ rentre dans un film comme ça, quoi. Aujourd'hui, ça serait totalement impossible.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
ce qu'on disait avant à propos du personnage, c'est que lui, justement, un thème de récurrent, le fil conducteur, on va dire, entre les deux films, c'est justement cette idée de la mort et de la renaissance du cinéma. Toi, tu à propos de ça, tu parlais des bouleversements, y compris de la révolution numérique qu'il y a eu. Toi, tu dis, si le cinéma est mort, c'est plutôt sur un mode le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que, mais finalement, c'est presque quelque chose qu'on pourrait dire depuis ses débuts. C'est-à-dire que le cinéma, au début, ce qu'on appelait les images mouvantes, d'abord, c'était vraiment fait, c'était tout à fait artisanal. Et puis après, il y a eu le son, il y a eu la couleur. Donc finalement, c'est ça aussi. Depuis, depuis sa naissance, il a toujours été en mutation et en.
Complètement, d'ailleurs, tout à fait. Là, je suis en train de tourner le numéro 3 de Daniel Danit, que j'ai commencé pendant le confinement, le premier, premier confinement. Et là, je le tourne avec mon téléphone portable, avec des objectifs que je mets dessus. La qualité est incroyable, je suis en 4K, ça ne cesse de progresser. Alors, le problème que vit le cinéma n'est pas tant lié aux évolutions techniques, qui finalement offre une souplesse extraordinaire, mais plutôt à l'évolution économique de la chose.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il me semble que si on compare les films, y compris les films des années 60-70, aux films qui sortent toutes les semaines maintenant, quand vous prenez un vieux Pariscope, parce que moi ça m'est arrivé à une époque, je consultais un psy, donc j'allais chez le psy, et puis lui il avait des vieux Pariscopes et des vieux cahiers du cinéma machin, et j'ouvrais le truc et je voyais sortie de la semaine, et il n'y avait que des chefs-d'œuvre.
Ouais.
Je me dis, mais quoi, cette semaine-là il y a 5 chefs-d'œuvre qui sont sortis. Alors que le tamis du temps faisant, on sait maintenant que c'était des chefs-d'œuvre.
Ouais, ouais.
Alors je doute que ce qui sorte aujourd'hui, ce soit pareil. Et c'est dommage, il y a beaucoup plus de moyens maintenant dans le cinéma.
C'est vrai. Ouais.
Mais c'est une industrie avec un certain nombre de normes qui font qu'il y a beaucoup moins de place pour l'originalité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est vraiment devenue de plus en plus marginale.
Voilà. J'allais te dire à la marge. D'ailleurs, on parlait du troisième volet des aventures de Daniel Danit, donc je ne m'étonne plus de rien, on y reviendra un peu plus tard, parce que je trouve ce que tu dis est très intéressant, je rebondis dessus. Justement, Je fais feu de tout bois, et à ce jour, le dernier de tes films qui est sorti au cinéma, puisque les deux films que tu as réalisés ensuite ont été diffusés sur Arte, donc c'est ce qu'on appelle des unitaires ou des one-shots. Et justement, quand tu dis, toi, on pourrait dire que tu fais un petit peu partie de cette catégorie de cinéastes-là qui peut-être a eu de plus en plus de mal à faire financer ses films pour le cinéma. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers la télévision, y compris des chaînes assez, on va dire, bienveillantes, pour le dire comme ça, dans la création d'auteurs, notamment Canal+, dont tu parlais, ou Arte, avec qui tu as travaillé?
Oui, alors Canal+, c'est un peu différent, parce que Canal+, de par ses statuts, est obligé de rentrer en préachat sur beaucoup de films.
D'accord.
Donc, il y a à boire et à manger sur Canal+. Ouais. Il y a des très bonnes choses et il y a des très mauvaises choses. Bon, ben voilà, ça fait partie de leur
créer le bon crâne.
Voilà, exactement.
Toi, du bon côté.
Je sais pas, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai eu cette chance sur mes trois premiers films d'avoir Canal. Maintenant, est-ce que j'ai eu plus de mal? C'est plutôt les choix que j'ai faits qui m'ont un peu cornérisé, dans la mesure où quand on fait le choix d'être totalement indépendant et de faire des films avec très peu de budget parce qu'on est libre, faut pas attendre ensuite qu'on vous appelle pour vous confier des millions et des millions d'euros.
Ouais.
Donc c'est un peu ça. Et je le regrette pas, parce que voilà, c'est mon itinéraire. Maintenant, moi je sais que j'ai plusieurs cordes à mon arc et que j'ai envie de continuer à travailler dans, on va dire, le cinéma de facture plus classique, ce qui est le cas du Passe-Muraille. Et même si le Passe-Muraille s'est fait pour Arte, au départ ça devait être fait pour le cinéma.
Ouais.
Il se trouve que, paradoxalement, là, j'avais un producteur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui n'a pas cru que je pourrais le faire pour moins cher. Et donc, ils avaient financé à l'époque 7 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent.
Pour le
Passe-Muraille.
Ouais, pour la première version.
Pour ce qui devait être tourné au cinéma. Ouais. Et un jour, il m'a dit qu'il ne le faisait pas parce qu'il pensait que le film devait coûter 11 millions d'euros. Moi, je n'avais jamais tourné à plus de 2 millions et demi d'euros. Ça me paraissait énorme. Ouais. Je lui ai dit, mais bien sûr que je te le fais pour 7 millions d'euros. Il me dit, non, je ne crois pas, je ne pense pas que ce soit possible. Et il avait effectivement renoncé. Et j'ai fait le film 5 ans plus tard, pour Arte, pour 1 800 000 euros.
D'accord.
Et c'est grosso modo le même. Hein.
Oui. T'as pas tellement transigé dans...
Non, j'ai réinventé des trucages. Ouais. Mais voilà. Et donc, moi, j'estime que ce film que j'ai fait pour Arte aurait très bien pu sortir au cinéma. D'ailleurs, il a eu un énorme succès d'audience, ils le repassent à chaque fois.
Oui, il est
là,
toujours...
ils vont le repasser en ce moment, d'ailleurs.
Il est toujours sur la plateforme, je le dis, on en reparle. parlera à la fin.
Et là, il passe en prime time le 24, là, et à chaque fois, il le rediffuse, et à chaque fois, ça performe. Ouais. Et ça a eu des prix, le prix de la critique, etc. Donc, moi, j'estime que c'est une réussite. Mmh. J'aurais préféré le faire pour le cinéma. Et en même temps, je me dis, là, si on met bout à bout tous les gens qui l'ont vu sur Arte, il y a plus de 5 millions de personnes.
Bah, bien sûr.
J'aurais jamais fait ça au cinéma.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est ce qui peut être intéressant aussi pour la télévision. C'est-à-dire qu'il est diffusé une première fois, il y a comment dire, des retours qui sont assez positifs. Donc, Arte décide de le rediffuser, de le mettre en... comment dire, en disponibilité sur leur plateforme, qui en plus, eux, contrairement à d'autres, tous les programmes sont totalement accessibles pour beaucoup de programmes de façon gratuite. Et c'est vrai que tu peux partir du principe que sur un film qui est classé à réessai, ou en tout cas quasiment, il y aura une fenêtre de distribution au cinéma qui est évidemment moins grande et qui il est pas pour le dire comme ça, il n'est pas appelé à être diffusé en salle 6 mois ou 1 an après sa première. Ouais. Donc c'est ça aussi qui lui permet d'avoir plusieurs vies, ou en tout cas d'avoir une durée de vie un peu plus longue.
Complètement, et moi j'ai la chance de bosser, quand je fais un unitaire télé, c'est pour Arte, et donc il laisse une grande liberté au réalisateur, et il se trouve que moi j'écris mes films, donc moi je suis très bien dans cette configuration-là. À choisir entre des contraintes que je ne souhaite pas et le cinéma, ou moins de contraintes et Arte, je prendrais toujours moins de contraintes et Arte, même si c'est moins de sous pour moi, et voilà, donc ça c'est encore un autre choix. Mais encore, je ne veux pas renoncer à mon cinéma expérimental comique, on va dire, donc la trilogie de Daniel Danit, qui donc va voir le jour. Ouais. Ça sera une trilogie, je ne continuerai pas après.
D'accord.
Mais j'en inventerai peut-être un autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de rester jeune et d'apprendre toujours. Quoi, en bricolant, en faisant soi-même des choses, etc.
Et donc, donc on parlait du passe-muraille, on y reviendra après, donc adapté du... Je ne sais plus si c'est un roman ou une nouvelle de...
C'est une nouvelle de
Marcel Aimé. Ouais. Voilà, il avait déjà été adapté plusieurs fois au cinéma, notamment avec Bourville, il me semble.
Donc
dans ta version, c'est Denis Podalydès, ça c'est pareil, qui est un acteur assez bankable, pour le dire comme ça, assez connu du grand public. Donc avant ça, tu avais réalisé un film qui est très étonnant sur le sujet comme sur la forme, qui s'appelle le système de Ponzi, donc, qui est en fait, alors je ne vais pas parler de biopic parce que ce n'est pas exactement ça, mais qui est en fait centré sur la vie de le tristement célèbre, on va dire, inventeur de la pyramide et le schéma du même nom, donc Carlo Ponzi,
ouais,
il a américanisé son nom, de la, comment dire, qui était le premier à arnaquer des gens avec la pyramide, le système pyramidal auquel il a laissé son nom. C'est adapté d'une pièce de théâtre, je ne sais plus si c'est David ou
de Michel. David Lescaut. Okay, David Lescaut.
Les deux frères sont... Ouais. Et leur père, qui est...
Jean Lescaut.
Voilà, qui est décédé, était présent dans certains de tes films aussi. Ils sont tous les deux dans le théâtre et le cinéma, je ne savais plus. Et en fait, c'est un film, donc il y a la vie de... C'est basé sur la vie de Ponzi. Et en fait, en termes de mise en scène, c'est très original, puisque tu as utilisé des images d'archives de l'époque, sur lesquelles tu as intégré au montage, puisque tout le film est en noir et blanc. Et tu as même parfois, sur certaines scènes, incrusté les acteurs sur les images d'époque. Je me demandais comment... Alors,
c'est pas de l'incrustation.
C'est pas de l'incrustation,
non.
D'accord.
Je l'ai tourné à l'ancienne.
D'accord.
C'est-à-dire que je l'ai tourné avec des rétroprojections. C'est-à-dire que j'avais choisi très en amont, et ça a pris très très longtemps, mes fonds tournés. Ça se passe, donc le film se passe entre 1902 et 1920 aux États-Unis. Donc tourner ça, c'est une super production totalement infinançable. Sauf si on trouve une idée de cet ordre-là, à savoir, on trouve les décors filmés.
On retombe sur l'idée du bricolage dont tu parlais.
Exactement.
Finalement.
Et il faut savoir que dans les années 20, 30, 40, quand on faisait des scènes, par exemple, dans une voiture, ou quand il y avait des acteurs qui ont tourné les films très vite à l'époque, d'ailleurs, et quand il y avait des acteurs qui n'étaient pas forcément disponibles, au lieu d'aller tourner dans le désert sur un cheval, on mettait le cheval dans un studio et on projetait le fond. En rétroprojection, dans des très très grands studios, on projetait le fond et on avait l'impression que James Stewart était sur son cheval en train de d'attendre les Indiens, mais en fait il était dans le studio, quoi, et tout était projeté. Donc moi j'ai voulu faire ça à l'ancienne, je me suis dit tiens, on va faire comme faisait par exemple Billy Wilder à l'époque, c'est-à-dire d'utiliser des fonds non pas d'incrustation mais de projection.
D'accord.
Donc c'était, voilà, là j'ai voulu un peu faire comme faisaient mes grands aînés et voir un peu comment ça marche. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut tourner très très vite comme ça.
Bien sûr, et là c'est ce qui s'est passé, tu parlais avant de films qui avaient été d'expérience au long cours, et là, le film, tu l'as tourné en combien de temps, le
système? J'ai tourné en 20 jours,
ouais, donc
j'ai tourné en 20 jours, et d'ailleurs c'était marrant parce que les films noirs américains, donc les films de Billy Wilder, entre autres, hein, c'est quelqu'un que j'aime énormément, étaient tournés à peu près comme ça, tournés en 20-25 jours, tu dis, mais comment ils font pour
tourner? Mais ça apporte une urgence même finalement, qui est, puisque même dans la, comment dire, dans le déroulé narratif du film et dans l'histoire, en fait, c'est quasiment, il me semble que les films noirs dont tu parlais, la grande époque des films noirs, c'est à peu près à ce moment-là où tu parlais de Wilder. Il y a notamment un des plus fameux, c'est Assurance sur la mort. Et finalement, même l'histoire de Ponzi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme il y avait eu Scarface ou L'ennemi public, c'est-à-dire qu'il monte inexorablement et puis en fait, il finit par chuter. Et puis il y a le krach boursier de 29 qui arrive, et puis à un moment, il devient, alors qu'il était célébré dans sa ville comme un citoyen exemplaire, là, il
devient paria.
Voilà, ouais, c'est ouais, ça, ouais. Finalement.
Oui, c'est Grandeur et décadence, mais ça, c'est très Kubrickien. C'est les films en deux parties, ouais, avec l'ascension et la chute, quoi. Donc ça, c'est un schéma que j'aime bien. Mais Ponzi, oui, alors j'avais adoré la pièce de David Lescaut, qu'il avait lui faite sous forme de plus ou moins comédie musicale.
D'accord.
Et donc moi, j'ai fait une forme très, très différente de celle de David. Mais
tu t'es basé pour beaucoup sur le texte ou tu l'as modulé, modifié?
Alors, j'ai beaucoup, beaucoup gardé ses dialogues.
Ouais.
Vraiment, très respectueux. J'ai changé deux, trois trucs, bien sûr. Et j'ai simplement beaucoup réduit, puisque la pièce faisait 2h20 et d'accord, le film fait 1h25.
Ouais.
Donc, mais ça, c'est l'esprit film noir, où beaucoup d'ellipses, on va à l'essentiel, ouais, etc. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce rythme-là. Et paradoxalement,
il se passe beaucoup de choses en assez peu de temps. Oui. Il y a même parfois en termes de temporel, en trois scènes, il peut s'être écoulé 5 ans de...
Ouais. Oui, complètement. Et moi, j'étais très content d'expérimenter ça. Et puis, j'étais surtout très fier parce que le fait d'avoir réussi à le faire en noir et blanc, ce n'est pas évident, même sur Arte. Alors, même s'il y a quelques scènes en couleur, bah, tout ce qui se passe dans les années 40, quand il est interviewé dans l'hôpital à Rio, c'est en couleur.
C'est pareil, il y a tous les flashbacks sur... à la Citizen Kane, ouais, il est sur son lit de mort.
Ouais. Et tous les flashbacks sont en noir et blanc. Et le film a été beaucoup récompensé en festival. J'ai eu le prix de la mise en scène à Luchon, qui est un des gros trucs. Et j'étais très fier de ça parce que je me suis dit, waouh, quand même, c'était un exploit d'imposer, parce qu'Arte m'a suivi, mais disons,
proposer en tout cas,
proposer,
ouais,
quoi, voilà,
ouais, ouais, ok, oui, c'est vrai que esthétiquement et en termes de sur le fond comme sur la forme, c'est assez passionnant, et c'est la structure de voir, c'est très intéressant.
Et c'était le premier film que je réalisais sans l'avoir écrit, et puisque c'était David qui avait écrit la pièce, j'ai juste adapté la pièce, et ça m'a peut-être donné une grande liberté de plus me concentrer sur la mise en scène et moins douter de ce que j'avais écrit.
Et justement, c'est une question que je voulais te poser aussi, puisque tous les autres films que tu avais fait avant étaient au moins écrits par toi, voire...
En collaboration parfois.
Voilà, ou... en collaboration, voire ou plus ou moins...
Improvisé, ouais.
Ouais, voilà, et avec des tenants autobiographiques. Le point commun entre le système de Ponzi et le Passe-Muraille, c'est que c'est deux matériaux adaptés, pour le dire comme ça, et justement, est-ce que toi, dans la façon de construire le scénario et le film, de t'emparer d'un matériau préexistant, notamment pour, on parlait du Passe-Muraille qui avait déjà été, qui est déjà connu du grand public, alors un peu moins connu du grand public jeune d'aujourd'hui, qui était connu depuis une petite centaine d'années, qui avait déjà été adapté.
Un peu moins quand même. Ça a été écrit en 40, ouais, en 41. Pas 80 maintenant, voilà, c'est pas mal quand même. Ouais, ouais.
Mais plus près du siècle. Ouais. Et oui, justement, est-ce que quand tu adaptes un matériau qui n'est pas le tien à la base, qu'il soit récent ou moins récent, est-ce que ça change quelque chose à la façon dont tu construis le scénario puis le film?
Alors en fait, oui, ça change parce que... alors le Passe-Muraille, c'est un cas particulier parce que la nouvelle, elle est très courte, elle fait 14 pages. Et donc il a fallu que j'invente énormément de choses.
Tu as brodé.
Plus que brodé, il y a des personnages qui existent carrément. D'accord, pas du tout, ouais, dans
les personnages. Puis il y avait un travail de modernisation et de...
Par ailleurs aussi. Et donc j'ai gardé la trame, j'ai gardé le personnage. Pour moi, le personnage du Passe-Muraille, c'est un peu comme Bartleby de Melville. C'est pour moi un archétype. J'avais envie de travailler avec ce type d'archétype, le petit bonhomme. Le petit bonhomme transparent, couleur de muraille, hein, c'est un type. Et il y a une phrase qui est très importante que j'ai trouvée, qui est pas dans la nouvelle de Marcel Aimé. C'est un moment, on demande au chef de service du tilleul, c'est son nom, de décrire du tilleul, et il dit, ben, il est comme tout le monde. Et on dit, c'est-à-dire? Et il répond, c'est-à-dire bizarre, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est comme tout le monde. Mmh. Et je trouve que ça raconte bien notre époque. Ouais. C'est-à-dire que quand on pense à l'archétype du petit bonhomme avec sa mallette, son costume tout gris, ça marchait dans les années 50, oui. ça a arrêté un peu de marcher après. Et maintenant, on est dans un monde où tout le monde affirme sa personnalité. Ouais. Et en fait, des gens extrêmement... sans aspérité, ont l'air d'être des rois du rock'n'roll, mais en fait, pas du tout. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus difficile de définir un archétype de nos jours que c'était le cas à l'époque. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et c'était un peu la base du truc. Il se trouve que c'est un personnage, un monsieur tout le monde qui traverse les murs, quoi, un super anti-héros. C'était ça, mon principe.
Ok. Et pour le système de Ponzi, c'était différent, puisque... tu parlais d'archétypes, le personnage de Ponzi fonctionnait pas exactement comme ça, donc le matériau que tu adaptais n'était pas exactement fait pareil. À l'inverse, c'était un travail qu'il fallait raccourcir, compresser, plutôt que de l'agrandir.
Et ça a été pas évident, mais en même temps, ça a été beaucoup plus rapide. C'est toujours beaucoup plus facile d'enlever des choses que d'en rajouter, parce que ce qu'on rajoute, si ça se trouve, c'est pas bien. Alors que ce qu'on enlève, on se dit bon, on peut l'enlever, ça marchera quand même, on fait une ellipse, et puis voilà. Ou alors il y a deux idées dans deux scènes différentes, on va mettre les deux dans une seule. Donc on travaille à partir d'un matériau plus riche.
Et donc on parlait tout à l'heure des premières moutures, des premières itérations du passe-muraille. Il me semble que c'est un projet au long cours, puisque je lisais le dossier de presse de Je me fais rare, donc ça date de 2006, et où tu l'annonçais déjà comme étant ton prochain film, plus ou moins. Oui. Tu travaillais déjà dessus, et est-ce que s'il avait vu le jour au cinéma, comme tu le disais avant, est-ce qu'il aurait été très différent de ce qu'on a vu sur Arte? Ça aurait été un peu plus... tu parlais de super anti-héros, est-ce que ça aurait justement... il y aurait eu plus d'éléments fantastiques, dans la façon dont il traversait les murs, ou des presque des super pouvoirs dont il avait, ou c'est finalement très proche de ce que tu comptais faire?
Non, je pense que ça aurait été assez proche, ça aurait peut-être été un peu plus spectaculaire, mais
c'est la différence entre le 1,8 million et le 7 million peut-être.
Oui, quoique en même temps, parce qu'entre le moment où j'aurais dû le tourner, c'est-à-dire effectivement, je commençais à l'écrire en 2005-2006, j'aurais dû le tourner en 2008, il ne s'est pas tourné en 2008, finalement il s'est fait en 2015 pour Arte. Entre-temps, j'ai fait d'autres choses, mais il s'est fait en 2015 pour Arte. Entre-temps, les effets spéciaux ont beaucoup progressé. Donc, en fait, ça n'aurait pas été forcément beaucoup plus spectaculaire. Simplement, disons que l'effet spécial, il n'est pas très compliqué. Le fait de traverser un mur, c'est un Méliès, le faisait déjà.
Oui, c'est vrai.
Il fallait juste que ça passe. Mais c'est pas là-dessus que repose le film. Je pense que c'est plus dans le hors-champ, dans ce que les gens se racontent en voyant le film, et surtout dans le personnage et son rapport au monde. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
Mais c'est peut-être ça aussi, comme tu disais, qui fait qu'il soit encore, qu'il ait justement une durée de vie, une durée d'attraction qui soit assez longue. Mmh. Peut-être que justement c'est le sous-texte ça qui intéresse les gens et qui font qu'ils y reviennent. Et justement, on disait le premier rôle donc du Thiel joué par Denis Podalydès. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est un nom qui est assez connu, qui est en plus il a une carrière où il est à la Comédie Française, et pour autant il apparaît dans des comédies populaires assez grand public. Donc il arrive à être un petit peu sur le fil. Je me demandais comment il était arrivé sur le projet.
C'est un acteur que j'admire énormément depuis longtemps. On se connaissait un petit peu, mais pas voilà, on avait dîné une fois ensemble chez une amie commune, je pense qu'il avait vu un de mes films. Moi, je voyais beaucoup de choses de lui au cinéma et au théâtre, et pour moi, ça a été une évidence que c'était lui. Alors pas au cinéma, parce qu'au cinéma, avec le gros budget qu'il y avait à l'époque, il n'était pas encore aussi connu. J'avais pas le droit d'apprendre Podalydès. J'avais pas le droit.
Okay.
Donc à l'époque, j'avais vu pour lui proposer le rôle du chef de service.
Ouais.
Franck.
Qui jouait par Scali Del Pera.
Par Scali Del Pera.
Qui jouait Ponzi.
C'est un peu une famille de comédiens. Et Denis m'avait dit oui, j'aime beaucoup cette nouvelle de Marcel Aimé, j'aime beaucoup de rôles, je vais être d'accord pour faire Franck. Et puis le film, c'est pas fait. Et quand je suis revenu vers lui des années plus tard, j'avais écrit un autre scénario, un peu plus dense pour Arte. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu serais d'accord pour relire le scénario? Il a un peu changé, mais ce coup-ci, je te propose du Tilleul.
Et lui, entre-temps, sa notoriété avait grandi.
Oui.
Donc...
Et il m'a appelé deux jours plus tard en me disant, formidable, je suis avec toi, juste, il faut trouver un moment où je suis libre, ce qui n'est jamais facile avec lui, vu qu'il est tout le temps au théâtre et qu'il a des créneaux de tournage.
Ouais, et puis la Comédie Française, c'est
Et j'aimerais beaucoup retravailler avec lui. Et je pense que j'ai plusieurs projets, et à chaque fois, je pense que je vais lui proposer quelque chose. Ouais.
Et tu parlais de comment dire, tu disais, il y a, enfin, il y a quand on voit tes films, il y a une troupe, presque une famille de comédiens ou même de gens devant et derrière la caméra à qui tu fais souvent appel, avec qui tu travailles souvent. Est-ce que ça fonctionne presque comme une troupe théâtrale, c'est-à-dire que quand tu écris... quand tu écris tel rôle, masculin ou féminin, tu as déjà la personne en tête et tu te dis, idéalement, c'est à elle qu'il faudrait...
Alors oui et non, parfois oui. Parfois, tout de suite, j'ai une image, je dis, c'est cet acteur. Ouais. Bon. Que je connaisse ou je ne connaisse pas. Alors parfois, je me dis, tiens, c'est cet acteur que je n'ai jamais rencontré. Ça peut arriver aussi. Hein. Et puis parfois, pas du tout. Parfois, pas du tout. Je me dis, et puis souvent, quand ce n'est pas du tout, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'écriture du rôle.
Ouais.
Et donc, souvent, je réécris à la fin. Pour finalement faire correspondre mon rôle à la personne que j'ai choisie.
Ça s'imbrique mieux.
Ouais. Donc, j'ai pas de recette. Non, j'ai pas de recette. Et puis, parfois, par contre, plutôt que de faire passer 1000 essais à des acteurs que je connais pas ou des acteurs dont on me dit qu'ils sont géniaux, que ça va devenir des stars, parce que ça arrive parfois, qu'il faut absolument. Au lieu de faire passer des essais à ces gens-là, je préfère parfois aller vers un acteur que je connais, dont je sais qu'il sera parfait pour le rôle, ou une actrice, et voilà, c'est comme ça.
Ok, très bien. Donc, on parlait du film sur lequel tu travailles actuellement, donc qui est le troisième volet des aventures de Daniel Dany. Donc, je ne m'étonne plus de rien. Sans rien divulguer de confidentiel, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce film par rapport au personnage, par rapport à l'évolution, par rapport à ce que ça va raconter?
Alors, il y a un invariant chez Daniel Dany, c'est cette propension à avoir une confiance absolue en lui-même et à vouloir révolutionner le cinéma à tout prix. Donc ça, c'est resté. Maintenant, il a pris quelques années, hein, puisque je suis un peu plus âgé. Et d'ailleurs, dans ma tête, je m'étais dit, je ferai le troisième volet quand j'aurai les cheveux complètement blancs. Il se trouve que là, j'ai encore, ils sont gris.
Ouais, on est à la radio, ça se voit pas, mais...
Voilà. Donc, je l'ai fait trop tôt, j'aurais dû attendre. Mais en fait, il y a eu le confinement et j'étais confiné dans ma maison de campagne, puisque je vis à la campagne, avec toute ma famille. J'ai 4 enfants, une femme, et les enfants sont très différents en âge. Il y en a qui sont adultes, il y en a qui sont jeunes. J'ai fait 2 générations d'enfants. et donc, on était là. Et puis, on se sentait coupable parce que c'était quand même très stressant, ce premier Covid. Bien sûr. Et en même temps, on se disait, c'est le paradis. Il fait beau, on est dans le jardin. Et donc, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est le terrain de jeu idéal pour Daniel Dany. Tout le cinéma est arrêté. Moi, je lisais les articles. Les salles sont fermées. Les films sont à l'arrêt, etc.
C'était long.
Je me suis dit, alors, qui peut survivre à ça? Daniel Dany, bien sûr.
Qui d'autre?
Et du coup, j'ai eu l'idée, en fait, que Daniel Dany, le principe de Daniel Dany, c'est qu'il va toujours voir des producteurs qui essaient de se débarrasser de lui. Donc, ça commence par une scène comme ça, où Daniel Dany se fait un peu envoyer sur les roses poliment par un producteur. Mais le Covid arrive quelques jours plus tard et le producteur le rappelle en lui disant « Écoute, je suis dans la merde. J'ai 6 projets pour Netflix qui sont arrêtés. J'ai 12 heures de films à remettre dans un mois. Est-ce que tu peux me faire 12 heures de films pour dans un mois ?» quoi. Et Daniel lui dit oui, il lui donne ses conditions. Et Daniel a l'idée de faire la Divine Comédie de Dante, d'adapter les 2 premiers vers de la Divine Comédie. C'est son projet. Et donc, c'est Daniel Dany essayant d'adapter la Divine Comédie tout seul dans son jardin avec son téléphone, en fait, au départ. Sachant que, en fait, le truc qui se passe, c'est que finalement, il trouve dans un carton, dans son grenier, un robot qui est son double parfait. Et donc, c'est la vraie histoire du film, c'est comment Daniel et son double parfait vont réussir ensemble à faire un film.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est de la science-fiction et il y a des effets spéciaux.
Ok, donc c'est le double robotique de ton presque double de cinéma.
Exactement. C'est un double carré.
La mise en abîme. Ouais. Finalement, voilà, à défaut d'être le troisième frère Cohen, il s'est trouvé un frère de cinéma.
Mais exactement.
C'est encore une histoire de double.
C'est une histoire de double. Et d'ailleurs, dans Je me fais rare, il y avait Michel, son assistant, qui était un peu son double.
Qui finit par le dépasser.
Qui finit par le dépasser, exactement.
Et son film sur les amnésiques. Voilà. Enfin non, sur Alzheimer.
Les gens qui
ont Alzheimer vont voir plusieurs fois pour être sûr de s'en souvenir.
Et du coup, ça fait beaucoup d'entrées.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'était ça.
ça explique le succès populaire. Les 5 millions, justement.
Et là, donc vraiment, c'est Daniel Dany en train d'essayer d'apprendre le cinéma à son robot naïf, à son double naïf.
D'accord.
Lequel, évidemment, va finir par le supplanter, mais ça, je peux vous le dire, ça, vous l'aurez deviné.
On s'en doute. Ouais. Et donc ça, c'est, à l'inverse des projets dont on parlait, c'est un projet que tu conçois pour le cinéma, que tu voudrais sortir en salle.
Il va sortir en salle, alors il sortira confidentiellement, comme les deux premiers. Il y aura quoi, 2-3 salles à Paris, quelques salles en province. Mais après, il a une vie.
Bien sûr. Et puis, c'est ce que tu disais aussi. Enfin, on disait maintenant... avant, le film, il était soit distribué en VHS ou en DVD. Maintenant, c'est vrai qu'avec les plateformes, ça rend un peu plus ça peut allonger la durée du film aussi.
J'espère quand même faire un coffret DVD ou Blu-ray des trois Daniel Danit. J'aimerais bien. En tout cas, je sais qu'à la Cinémathèque, ils m'ont proposé de faire une rétrospective des trois quand celui-là serait prêt.
Ah bah super, ouais. On guettera. Et donc, pour l'instant, tu ne sais pas à quel horizon il va sortir ou...
Il me reste quelques scènes à tourner. Il me reste ensuite à le financer, puisque le film se fait à l'envers.
Ouais.
Donc il faut que je trouve de quoi faire la post-production, que je n'ai pas pour le moment.
Okay.
Et ensuite, il sortira, mais bon, c'est dans un an, quelque chose comme ça.
D'accord.
Enfin, ça dépend, parce que j'ai d'autres projets. Si je tourne mes autres projets avant, ça va retarder la sortie de celui-là.
D'accord, voilà. Ok. T'es bien occupé. Alors, on arrive malheureusement bientôt au terme de l'émission. Je vais te poser la question proverbiale que je pose à chacun et chacune de mes invités. S'il y a une œuvre qui te tient particulièrement à cœur, que tu souhaiterais partager et recommander à nos auditeurs et auditrices.
Alors, j'en ai beaucoup, mais ouais. Par rapport à ce dont on vient de parler, il y a un film de Nanni Moretti dont j'ai envie de parler, qui s'appelle Palombella Rossa. Je ne sais pas si tu l'as vu.
J'ai vu beaucoup de ses premiers films, mais celui-là, ouais. Je ne l'ai pas vu.
C'est un film qui est des 88.
Un joueur de waterpolo.
Ouais. Ouais. C'est okay. L'histoire d'un joueur de waterpolo amnésique qui ne sait plus qui il est et qui se retrouve embarqué dans un car. Il comprend qu'il a quelque chose à y faire. Il comprend qu'il fait partie d'une équipe, il ne sait pas de quoi. Après, il comprend que c'est une équipe de waterpolo. Et c'est comment il va retrouver la mémoire pendant le match de waterpolo. Et en fait, c'est une parabole sur la chute des idéologies.
D'accord.
C'est incroyable. C'est une comédie incroyable. C'est pour moi le meilleur film de Moretti. Et c'est okay. Un des meilleurs films des années 80. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je sais qu'il existe en DVD. Il doit être quelque part sur les plateformes. Il a mis longtemps à sortir en DVD.
Ouais.
Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un très, très grand film de Moretti.
Très bien. Alors, pour récapituler un petit peu, on parlait de tes différents films. Il me semble que Cours Toujours, dont on parlait, tu es en train de le retravailler, comme on disait.
De le restaurer.
Donc, pour l'instant, il n'est pas visible.
Non.
Comme tu disais, il y aura un DCP qui va être fait, il sera de nouveau visible. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, y compris en DVD ou alors... dans les recoins de l'internet. Sinon, pour les avoir vus disponibles par ce biais-là, les deux films avec pour héros Daniel Danit et le tout premier Fast sont dispo, il me semble, sur la plateforme FilmoTV, c'est bien ça ?
Oui, ils sont sur FilmoTV actuellement. Je crois que Cours Toujours, il est visible, mais dans une version non restaurée sur le site VOD d'MK2, je
D'accord.
pense, parce que ça, c'est MK2 qui était le distributeur. Et sinon, ben, le passe-muraille, il passe en ce moment
ouais.
sur Arte. Il existe aussi en DVD. Et Ponzi doit être en VOD sur
oui,
le site d'Arte.
Oui, parce qu'en fait, il me semble que le site d'Arte, il y a des vidéos auxquelles tu peux accéder gratuitement. Et sinon, c'est moyennant c'est 3 euros.
Oui,
1€
c'est VOD. Voilà, exactement.
Voilà. Très bien. Bah, voilà. Donc, pour tous ceux qui voudraient découvrir tes films, et on leur recommande. Et le film de Moretti, évidemment. Très bonne recommandation. Merci beaucoup. On a hâte. Bonne soirée.
Bonne soirée.